RTV 95.7, Music & News, avec Marianne Attanchot.
Écoutez Music & News tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6h sur RTV 95.7.
Je suis Thierry Méranger, je suis le responsable des programmations Cinéclic et Regard d'ailleurs pour l'association Fenêtre sur Film. Fenêtre sur Film, c'est une association qui a maintenant à peu près 15 ans et qui s'occupe d'être la cheville ouvrière derrière un certain nombre de programmations à tendance art et essai, jeune public, mais aussi pour tout public, qui sont le Cinéclic, c'est-à-dire une programmation type ciné-club sur une douzaine de séances par an et même quelques séances hors série, et puis le festival Regard d'ailleurs qui tous les ans, en mars-avril, est dédié à un pays différent. Fenêtre sur Film, c'est aujourd'hui une équipe d'à peu près 50 bénévoles. C'est aussi 3 services civiques et c'est depuis quelques mois. Ce sont 2 emplois qui sont pérennes. Donc c'est vraiment une structure qui s'est mise en place petit à petit autour de nos 320 adhérents qui est maintenant, c'est pas à moi de le dire, mais je pense que la voix des adhérents de Fenêtre sur Film est une voix qui compte, qui fait que l'association est quand même très active, non seulement au sujet de la programmation, à propos de la programmation, mais aussi pour tout ce qui est animation. Nous travaillons notamment, nous sommes au service du contrat de ville, de la politique de la ville. Donc l'idée, c'est de faire feu de tout bois autour du cinéma pour en faire un instrument à la fois de divertissement et d'éducation pour tous les publics. Je crois beaucoup, en tant qu'enseignant à la base, responsable aussi des sections cinéma du lycée Rotrou, à cette façon que nous pouvons avoir de combattre un certain nombre de nos maux et des fléaux qui s'abattent sur nos sociétés par la culture et par l'éducation. Et le cinéma, parce que quand on dit culture, c'est toujours un gros mot qui peut paraître effrayant. Le cinéma, c'est vraiment un médium qui permet de toucher tout le monde, qui permet de mener une véritable politique éducative, tout en distrayant les gens. Distrayant les gens, certes, mais aussi en éveillant quelque part leur esprit critique. À l'époque que nous traversons, eh bien évidemment, cet éveil de l'esprit critique, pour moi, c'est quelque chose qui a trait à une éducation citoyenne qui est de plus en plus indispensable. Alors pour Cinéclic, on doit en être à la 22e année consécutive, puisque le festival Regard d'ailleurs a été créé un tout petit peu avant Cinéclic. Et on peut dire que, voilà, sans discontinuer, parce qu'on a même réussi à maintenir Cinéclic lors des années Covid, la programmation s'est beaucoup étoffée. Nous avons une moyenne de spectateurs qui est allée croissant. Et c'est vraiment, c'est un petit peu une façon pour nous d'entretenir, alors je dirais pas au quotidien, parce qu'on n'a pas non plus une séance tous les jours, mais d'entretenir sur l'année cette culture cinématographique et puis surtout ce rapport avec notre public, parce que on me le dit tous les jours, on attend notre ouverture de saison avec impatience, et ça, nous en sommes fiers. Alors, c'est un public, j'aurais presque envie de dire, de 7 à 77 ans, si ce n'était pas trop restrictif, pardon, puisque nous avons des séances à la fois pour le tout jeune public en maternelle et nous allons jusqu'à des séances traditionnelles dans les EHPAD. Et puis par ailleurs, c'est un public pour lequel on ne peut pas dire qu'il y ait tellement de prérequis, c'est-à-dire qu'on peut très bien simplement aimer aller au cinéma et aller voir nos séances, et en même temps nous essayons de nourrir les cinéphiles un peu plus pointus qu'il peut y avoir sur Dreux et son agglomération, et il y en a. Donc cette idée, c'est aussi d'être dans le brassage entre des gens qui peuvent se considérer, je mets beaucoup de guillemets, comme spécialistes, et puis des gens qui ont simplement envie d'aller se divertir. La saison ouvre le 7 octobre, donc mardi soir à 19h30 à Ciné-Centre. C'est donc la première de Cinéclic avec une petite cérémonie d'ouverture. Et puis, voilà, un film que nous avons jugé emblématique et surtout un invité que nous avons jugé emblématique, puisque c'est Pierre Richard qui va présenter son dernier film, en tant que réalisateur et en tant qu'acteur, bien entendu, qui s'appelle « L'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'homme ». Et Pierre Richard sera avec nous à Ciné-Centre et aura une vraie et belle rencontre avec le public à l'issue de la projection du film. C'est une sorte de fable. fable un petit peu naïve où un vieux monsieur qui s'appelle Grégoire, interprété par Pierre Richard, on voit très vite les liens qu'il peut y avoir entre Grégoire et Pierre Richard, le Pierre Richard dans la vie. C'est un vieux monsieur qui a choisi d'habiter dans le sud, dans l'Aude, au bord de l'eau, qui a quitté la richesse, la fortune, pour vivre une vie simple auprès de gens simples. Et puis évidemment, comme toujours, il y a une intrigue, puisque son passé le poursuit, et des gens un peu mal intentionnés veulent le ramener aux affaires, en quelque sorte. Et lui vit sa vie, qu'il choisit de traverser avec des gens qui sont non pas des marginaux, mais des gens un tout petit peu décalés par rapport à notre société. Et au fil des rencontres, bien évidemment, il y a une intrigue, il y a des aventures, il y a de l'humour, un humour tendre et doux, c'est pas du tout un humour de grosse cavalerie, c'est un humour tendre, poétique, à travers lequel on va retrouver le parcours de Pierre Richard. Des coups de cœur, ce qu'ont été les coups de cœur de Pierre Richard dans sa vie. Et alors, quand on connaît sa vie, bien sûr, il y a beaucoup d'allusions à ce qu'il a été et toujours, c'est-à-dire un comique qui joue avec son corps, des chutes, enfin tout le côté burlesque qu'on a aimé, mais aussi tout le côté très poétique, parce que Pierre Richard, c'est l'ange blond, hein, quand même, d'une certaine façon. C'est celui qui, avec beaucoup de candeur, et parce qu'il a beaucoup de candeur, traverse un certain nombre de difficultés, et lui s'en tire toujours, de toute façon, il en sort toujours indemne. Donc, il joue avec ce personnage-là, et puis il joue aussi avec ses engagements dans la vie. Et par exemple, ça c'est quelque chose, un clin d'œil qui nous a beaucoup touchés, nous ici à Dreux. Il faut savoir que Pierre Richard est quelqu'un qui a un amour fou pour le Brésil. Et en particulier, c'est quelqu'un qui est un très très farouche défenseur des peuples autochtones au Brésil. Donc il a eu maintes fois l'occasion de s'engager pour eux, pour cette noble cause. Et on va retrouver ça dans le film. On retrouve aussi à un moment, alors on le sait ou on ne le sait pas, mais parle à un moment du Tché. Alors on se dit, le Tché, Pierre Richard, mais quel est le lien? Eh bien, il faut savoir que Pierre Richard, en tant que cinéaste, il y a de cela 30 ou 40 ans, a fait un documentaire en partant sur les traces de la famille du Tché. Enfin, voilà, donc il y a plein de morceaux du puzzle qui peuvent s'assembler. Même si on ne connaît pas du tout la carrière de Pierre Richard, c'est pas grave. On suit une aventure poétique et comique, tout à fait tendre et très, très, très agréable. Et puis si on connaît Pierre Richard, on remarque un clin d'œil, une allusion à une forme d'engagement, et puis une tonalité qui est celle de ce personnage, là je parle de Pierre Richard lui-même, qui est quand même une des plus grandes vedettes vivante du cinéma français. Il y a une période où dans le cinéma français à l'extérieur, en dehors de nos frontières, les gens connaissent Pierre Richard et Alain Delon. C'est quelqu'un qui, internationalement, peut-être parce que son comique reposait beaucoup là-dessus, pas forcément sur du verbal, incroyablement connu, que ce soit en Amérique latine, en Europe de l'Est, enfin c'est quand même assez étonnant. Beaucoup, beaucoup de gens connaissaient Pierre Richard et je pense le connaissent encore aujourd'hui de par le monde. Moi-même, j'étais pas encore à Dreux à l'époque, mais il a tourné dans La Carapate. Voilà, c'est très touchant de le voir revenir. En plus, ce qui est drôle, entre autres, dans La Carapate, c'est un film où souvent les personnages traversent les décors, comme ça on se rend même pas compte. Mais quand on regarde La Carapate aujourd'hui, on peut encore en trouver des extraits, notamment sur YouTube, on se rend compte qu'on voit très très bien Dreux, en particulier la place Météso, l'église, les hôtels. Alors c'était une époque pas tout à fait la nôtre, hein. Il y avait des voitures encore beaucoup à cette époque-là, dans ces endroits-là. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté, il y a un côté Pierre Richard le retour chez nous, qui était totalement imprévu. Personnellement, m'a beaucoup touché. Ça fait partie des raisons qui m'ont fait choisir le film. D'abord parce que, voilà, comme beaucoup, j'ai vu beaucoup de films de Pierre Richard quand ils sont sortis, ou plus tard à la télévision, sans me rendre compte que derrière l'acteur, il y avait aussi un réalisateur. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Le Distrait, par exemple, s'est mis en scène par Pierre Richard lui-même. Et que le film que nous allons voir mardi est son 9e film. Voilà, il y a ce côté acteur-réalisateur qui m'a beaucoup touché. J'ai eu la chance de découvrir le film en avant-première à Cannes. À ce moment-là, j'ai été, deuxième chance, j'ai été présenté à Pierre Richard par son producteur. Il s'appelle Frédéric Niemeyer, qui est un grand producteur du cinéma français et qui sera là d'ailleurs mardi aussi, accompagnant Pierre. Et tout de suite, voilà, nous avons discuté et Pierre s'est avéré quelqu'un de tel que je l'imaginais. Vous savez, quelquefois, on se fait, voilà, on rencontre des gens, des idoles ou des gens qu'on connaît à travers les médias, puis on se dit toujours qu'est-ce que ça va donner à l'arrivée, est-ce que l'image que j'ai, on n'a pas envie d'être déçu. Et avec Pierre Richard, j'ai été tout sauf déçu. Enfin, ça a été une rencontre pour moi qui fait partie de mes plus belles rencontres de cinéma. Voilà, travaillant pour les Cahiers du cinéma, j'ai assez vite, enfin même tout de suite, convaincu ma rédaction de faire un grand entretien avec Pierre Richard. Entretien que Pierre a accepté avec joie et qui est paru dans le dernier numéro, sur 8 pages, dans le dernier numéro des Cahiers du cinéma. Pour la petite histoire, ce qui est très très... là aussi m'a beaucoup touché, c'est que Pierre a été très fier de se retrouver dans les Cahiers du cinéma. Et pourquoi ? Parce que la presse dite sérieuse ou intellectuelle ou artistique, peu importe, n'a pas toujours été tendre avec des comiques comme Pierre Richard. Il a fallu beaucoup de temps pour que la France se rende compte que ce Pierre Richard qui nous amusait tant à la télé dans Le Grand Blond, Le Distrait et j'en passe, La Chèvre, etc., était un grand artiste, un artiste qui jouait formidablement, entre autres avec son corps, et qu'il était l'équivalent de ces grands Américains que nous applaudissons à tout rompre, sans nous rendre compte, forcément, qu'on avait quelqu'un de cet acabit-là. Pierre Richard, oui, il est de l'acabit de Jerry Lewis, de Gene Wilder, de Mel Brooks. Comme par hasard, on discute, parce que c'est quelqu'un de très modeste, mais on discute avec lui et on se rend compte qu'il a fréquenté ces gens-là. Qu'il a été l'ami de Jerry Lewis, de Mel Brooks ou de Gene Wilder, qui le considérait comme leur égal. Donc il faut toujours un petit peu de temps pour que on n'ait jamais prophète en son pays, dit-on. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment frappant pour Pierre Richard. Je pense aussi, par exemple, que ces dernières années, la mémoire du cinéma a en quelque sorte rendu justice, si l'on peut dire, à quelqu'un comme Louis de Funès. Loin de moi l'idée de dire du mal de Louis de Funès. Mais je veux dire que Pierre Richard, qui était aussi cinéaste, est une figure, pour moi, tout aussi considérable que Louis de Funès, même en mon fort intérieur, beaucoup plus, je pense. Voilà, il y a quelque chose qui consiste à mettre un petit peu les choses, à remettre les choses en place et à dire, attendez, on a un monstre du 7e art, il est avec nous, il est encore vivant, il fait encore des films. Je pense qu'il était temps qu'on le reconnaisse à sa juste valeur. Et Pierre, je pense, a très bien... je pense qu'il a conçu une forme de fierté en se disant, enfin, on me reconnaît. Il n'est pas du tout prétentieux. Il sait quand même ce qu'il a pu apporter au cinéma français et à la culture française. Il y a quand même, avec ce film, et la façon dont il est reçu dans la presse, et en particulier dans les Cahiers du cinéma, il y a une forme de reconnaissance. Tardive, certes, il est là, il en profite et il se rend compte quand même qu'il y a énormément de gens qu'il aime dans le monde et à Dreux. Et alors c'est mardi 7 octobre, l'heure c'est 19h30, on avance un petit peu les séances cinéclics à la demande d'une partie du public et du cinéma aussi. Donc à partir de 19h30, ouverture de la saison et puis film. Pour l'accès au film, bon, c'est très simple, soit on peut entrer comme pour toutes les séances cinéclics, tout sera accessible à la fois à la séance, mais pour ceux qui le préfèrent, par carte d'abonnement, et je ne saurais trop engager les gens à s'abonner puisque les cartes d'abonnement, c'est 50€ pour 12 séances sur l'année quand on est adulte, et quand on est scolaire ou jeune, c'est 25€. Voilà, on peut pas moins. Fenêtre sur Film ne gagne pas d'argent là-dessus. Si vous pouvez à la fois souscrire à ces abonnements et même par ailleurs adhérer à l'association pour nous soutenir, là, l'adhésion c'est 10€ pour un adulte, 2€ pour un jeune, c'est pareil, mais le symbole est très très fort. Évidemment, on pourra s'abonner le soir de l'ouverture en venant un petit peu plus tôt, dès 19h à Ciné-Centre. On peut aussi trouver à s'abonner sur le site de Fenêtre sur Film. Et puis là, il y a un certain nombre de petits livrets qui présentent notre saison, qui vont se retrouver un petit peu partout sur la ville et l'agglomération. Je pense qu'il y a une sorte de dialogue, et dont on a beaucoup besoin aujourd'hui, entre le passé et le présent. Et ça, on va trouver ça à travers un certain nombre de films, que ce soit le film qui va suivre immédiatement, Nouvelle Vague, de Richard Linklater, qui est un film, la scénariste va être présente avec nous, un film qui évoque en fait les années 60 et la Nouvelle Vague, et le tournage de À bout de souffle par Jean-Luc Godard, film qui était à Cannes, qui a énormément plu à Cannes, et on va la voir à Dreux avec ses créateurs. Dialogue entre notre époque et les années 60, c'est d'ailleurs passionnant parce qu'on apprend comment est-ce qu'on tourne aujourd'hui à Paris, que Paris est l'ère du Paris de 1959. Un vrai challenge. Et par exemple, le 4 novembre, La mère de tous les mensonges, film de la jeune réalisatrice marocaine qui monte, qui s'appelle Asma El Moudir. C'est un film, c'est à la fois une fiction et un documentaire. Le film a eu l'œil d'or au Festival de Cannes, donc c'est sans doute là aujourd'hui une des réalisatrices marocaines. On est dans le cadre de l'année du Maroc à Dreux, qui est la plus prometteuse. Et elle sera là avec nous pour La mère de tous les mensonges le 4 novembre. Donc ça, c'est vraiment un moment fort. Et puis par la suite, on va avoir un hommage à Blanche Gardin sur plusieurs films, avec la présence de Sébastien Bedbeder, de Céline Deveau, qui sont ses réalisatrices et réalisateurs. Enfin, je sais qu'elle les aime particulièrement. Puis peut-être Blanche Gardin, on n'est pas encore certain, mais ça va se faire. Puis voilà, un focus à la fois sur le jeune cinéma français, La Pampa d'Antoine Chevrolier, qui était un très très beau film de l'an dernier, qu'on n'a pas encore vu à Dreux. Voilà, donc, et là encore, c'est une histoire un peu de nostalgie par rapport à une enfance, et qu'est-ce que ce passé a à nous apprendre aujourd'hui, sur quel rail ce passé peut-il nous guider. Je crois que c'est quelque chose qui va être un petit peu le fil conducteur de la saison, tout en étant, je tiens à le dire, quand même une saison détendue. Cette idée, c'est que, bien sûr, il y a des films un petit peu plus grave. Je pense par exemple à ce classique de Georges Cukor qui s'appelle Antise, Gaslight, qui sera montré le 9 décembre au lycée Rotrou. Film extrêmement important puisque c'est un film clé pour la cause féministe aujourd'hui, alors qu'il a été tourné en 1944. Le Gaslight, pour simplifier, pour être un petit peu plus grave, c'est ce qui a donné naissance au terme gaslighting, qui désigne aujourd'hui l'emprise de certains hommes qui peuvent être des pervers narcissiques, plus ou moins pervers, plus ou moins narcissiques, mais voilà, sur des femmes. Donc ce terme gaslighting vient d'un film de Georges Cukor avec Ingrid Bergman, une Suédoise, Ingrid Bergman, et ce film, donc Antise en français, eh bien, on le montrera 19h30, le 9 décembre, au lycée Rotrou. Comme quoi, voilà, on essaye aussi de ne pas être, on n'est pas détaché non plus, tant si on se transporte dans le passé, c'est aussi parce que il y a des choses, c'est en se connaissant soi-même, en connaissant son passé, en reconnaissant un petit peu ce qu'il nous apporte, qu'on peut continuer à vivre. Retrouver l'intégralité, c'est tout simple. On va sur le site de Fenêtre sur Film, fenetresurfilm.org, et on trouve tout de suite la programmation cinéclique. Et puis sinon, sur les principaux points chauds, si j'ose dire, de la ville, on va trouver pour les versions papier notre petit livret. Et tout cela est aussi au cinéma Ciné-Centre, bien entendu. Alors, je pense que c'est l'absence de culture, l'absence de mémoire, l'absence d'esprit critique qui mène partout, et j'ai même pas besoin de vous citer les pays, hélas trop, qui mène à un certain nombre d'excès, de débordements, mais aussi d'arriver au pouvoir de gens qui n'ont parfois pas beaucoup de foi et pas beaucoup de loi. C'est aussi cette culture qui permet effectivement, à mon sens, la sauvegarde de valeurs fondamentales qui sont pour nous la démocratie, qui sont la laïcité, voilà. Et je pense que c'est aussi cette culture qui doit être la base de toute forme d'éducation. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est pas moi qui vais dire le contraire, professeur de lettres, à la base, il faut apprendre à lire, à écrire et à compter. Mais la grande question est à voir. Mais l'idée, c'est aussi de se dire lire, compter, voir quoi ? Qu'est-ce qu'on va regarder ? Qu'est-ce qu'on va lire ? Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Et c'est là que se place la culture, et c'est là que se place la nécessité d'avoir une offre. Et une offre qui, à notre époque, va obliger les gens à se bouger, au-delà de leurs applications sur leur téléphone, au-delà de la précipitation du scrolling de TikTok, au-delà des émissions de télévision qui nous proposent toujours des surdécoupages, nous imposent une cadence qui nous dispense de penser et qui, du coup, nous manipule d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, la culture, c'est ça. C'est ce qui doit permettre à la fois, bien sûr, de se divertir, mais se divertir sans oublier que finalement, il y a quand même d'autres choses dans le monde. On a aussi le droit d'y réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours se polluer l'esprit chaque fois qu'on voit ou entend quelque chose en rattachant ça au malheur de notre monde. Mais il faut simplement être conscient de ce qu'on perçoit au moment où on le perçoit. Et après, ben, on en a plus de plaisir à découvrir des choses nouvelles et pas à se baigner constamment, toujours, en fait, dans la même eau, vivre sous le rythme des algorithmes, vivre sous le diktat, la dictature, là, de ce qui nous pend au nez, qui concerne évidemment l'intelligence artificielle. Et ce qui se passe, c'est que on est en train de transformer ce qui pourrait être un outil magnifique en prêt à penser. Et là aussi, on a tout à craindre. Tous les arts, d'ailleurs, ont à craindre. Le cinéma en particulier. On sait qu'aux États-Unis, un certain nombre de grands journaux et magazines ont décidé de supprimer la page critique de cinéma pour la remplacer, en fait, par des tribunes qui seraient écrites par l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Le risque, évidemment, de beaucoup d'erreurs, le risque de faire croire aux gens qu'il y a des choses comme ça qui sont vraies, qui tombent du ciel, qui sont objectives. Objectives, oui, ça vient de l'AI. Et puis on perd tout le côté personnel. On va licencier évidemment des gens. Il y a déjà un certain nombre, ça ne concerne pour l'instant que des journalistes, mais le pire est à venir. Je dirais qu'aujourd'hui encore, l'accès à la culture, le fait de dire aux gens, bah, venez, déplacez-vous, venez assister à des spectacles vivants, à du spectacle des spectacles de cinéma. Et nous concevons nos séances comme du spectacle vivant aussi. Il y a des invités, on en discute, il y a des débats, on se rencontre à la sortie, il peut y avoir un pot à la sortie de la séance, etc. etc. Voilà, ça c'est l'antidote. Et donc il faut absolument qu'on continue à le développer.
RTV 95.7 RTV